Donc, je voudrais, c'est le dernier cours normalement sur l'Église, hein. Donc, je voudrais dire quelque chose, c'est que l'Église manifeste la personne de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est amour, et l'Église manifeste l'amour de Dieu, mais elle manifeste aussi la grâce de Dieu. La fidélité de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Ces cinq aspects-là de Dieu sont manifestés dans l'Église et doivent être vus dans l'Église. C'est le caractère même de Dieu. Et quand il y a des attaques contre l'Église et quand la prédication n'est plus exacte dans une Église, elle touche en général un de ces cinq points. Et pour ne pas dire les cinq à la fois. On remet en question la grâce de Dieu, ou on ne parle plus de la grâce de Dieu, ou de l'amour de Dieu, ou on parle trop de l'amour de Dieu, et plus assez de la justice de Dieu. Il y a des églises qui sont les églises de l'amour de Dieu. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas juste. Parce que l'amour de Dieu existe parce qu'il y a la justice de Dieu, la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu rend possible l'amour de Dieu, parce que Dieu, dans sa justice, a frappé son Fils unique pour que nous puissions être sauvés. C'est la justice de Dieu s'est exercée sur le Fils de Dieu, sur Jésus-Christ lui-même, pour que nous puissions être sauvés. Donc l'amour de Dieu, c'est vrai, mais si on le sépare de la grâce et de la justice de Dieu, alors on tombe dans quelque chose qui est vrai, mais qui est faux. Parce qu'on met trop de l'accent. Quand on met trop l'accent sur une doctrine et que l'on oublie les autres doctrines, eh bien cette doctrine, même si elle est énoncée avec vérité, elle devient une erreur. Parce qu'elle met en avant quelque chose qui n'est pas tout seul. On ne peut pas parler de l'amour de Dieu sans parler de la justice de Dieu. L'amour de Dieu ne peut pas s'exercer si la justice ne tombe pas sur Jésus-Christ. Et alors l'amour peut s'exercer dans la grâce de Dieu. Et l'Église, eh bien, manifeste aussi la fidélité de Dieu, que Dieu est fidèle en toutes choses, et qu'il veille sur son Église, qu'il la protège et qu'il la fait grandir. Donc je vous ai donné ces deux versets, hein, c'est bon de les apprendre par cœur. Le Seigneur Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et ça, c'est dans sa fidélité. Il continue à bâtir son Église, à la faire grandir. Et puis, la sainteté de Dieu, c'est les vies transformées, les vies changées. Il y a un passé, il y a un présent et il y a un futur. Dans le passé, nous étions des pécheurs perdus, souillés. Mais le jour où nous avons été sauvés, eh bien, nous avons été aussi sanctifiés. Et Dieu nous a changés. Il nous a donné une nouvelle nature, une nature qui a soif de la sainteté. Et dans l'Église, eh bien, se manifeste la sainteté de Dieu qui nous est imputée. Nous avons accès à cette sainteté. Ce n'est pas quelque chose, une bonne idée, quelque chose qui est, hein, dans l'avenir, voilà, mais c'est quelque chose que Dieu rend concret et présent maintenant. Donc c'est le caractère de Dieu qui est manifesté dans l'Église. Et les attaques qui contre l'Église touche à la personne même de Dieu qui doit être manifestée dans l'Église quand il est question de l'Église, hein. Et c'est aussi bien dans les personnes qui persécutent, mais que dans ceux qui annoncent de fausses doctrines. Donc beaucoup de choses sont remises en question. C'est bon, on va vous dire, ils ne croient plus à la parole de Dieu, mais c'est vrai. Dans une certaine mesure, mais ça touche un des cinq points que je vous ai donné. Donc, notre responsabilité en tant que chrétien, eh bien, c'est de vivre la vie chrétienne d'une manière correcte, d'une manière biblique, et cette manière biblique va manifester le caractère de Dieu dans l'Église, dans nos vies d'abord, et dans l'Église ensuite. Nous sommes responsables pour la partie de l'Église qui est notre individualité, notre personne. On ne peut pas changer les autres. Mais par contre, nous, oui. Alors si on veut changer quelqu'un, changeons-nous, nous. Et par la puissance de Dieu et parce que Dieu nous a donné toute la capacité pour être changés quand nous sommes nés de nouveau. Mais ce qu'il y a, c'est que de même que quand quelqu'un se relâche, eh bien, il encourage, sans se rendre compte, les autres à se relâcher. Nous, on se relâche dans beaucoup de choses et les autres, eh bien, se relâchent avec nous. Tandis que si nous persévérons et si nous grandissons, eh bien, ça donne aux autres le désir de grandir et de persévérer. Alors, dans l'Église, personne ne peut dire « moi, je suis un élément insignifiant, je ne sers à rien ». Quand on est dans l'Église, eh bien, notre témoignage vécu manifeste ce que nous sommes, ce que nous croyons. Et alors, les autres ont envie d'aller plus loin. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés, et si on donne que des enseignements, ce sont des théories. Mais la vie chrétienne est éminemment pratique. On vit la vie chrétienne, et une vie vraie, une vie vécue, pas une théorie. Il y a des personnes qui se contentent d'être une façade, d'avoir l'apparence d'un bon chrétien. Si vous en êtes là, alors la parole de Dieu dit clairement en un mot, ce que vous êtes, un hypocrite. Voilà. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens. Vous faites beaucoup de choses pour l'apparence, mais à l'intérieur, vous êtes. Et ce qu'il a décrit n'était pas beau. Donc nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas l'apparence, c'est ce que nous sommes au fond de nous-mêmes qui se manifeste dans notre vie de tous les jours. Et si nous sommes des hommes et des femmes de prière, ce n'est pas la réunion de prière seulement, c'est aussi dans notre particulier. Si nous sommes des témoins de l'Évangile, ce n'est pas quand nous sommes une dizaine à témoigner, c'est quand nous sommes aussi tout seuls. C'est dans toutes les situations. Est-ce que nous manifestons notre vie chrétienne autant quand nous sommes cachés, que les gens ne nous voient pas, que quand les gens nous voient. Voilà. Cette ferveur que nous avons, est-ce qu'elle dépasse les murs de l'Église? Dès que nous sommes dans la rue, est-ce que nous ne sommes pas quelqu'un de différent? On change de veste, hein? C'est ce qu'on appelle des retournements de veste. Il y a des personnes qui ils ont leur veste à deux côtés. D'un côté, c'est un costume, de l'autre côté, c'est une veste de sport. Alors, quand ils sont à l'église, ils sont en bon costume, tout ça et tout. Et puis, quand ils sortent, eh bien, ils peuvent faire un jogging. Personne ne se dit, oh, ben, celui-là, non, il ne vient pas de l'église, celui-là, c'est pas possible. Non, ça se verrait trop. Je me rappelle, c'était à l'école, au collège. Il y a eu une guerre en Israël qu'on appelait la guerre des six jours. Et alors, il y a un gars qui s'est manifesté, il a dit, ça c'est biblique, hein, c'était prévu dans la Bible, c'est des prophéties. Alors, j'ai dit, toi, mon gaillard, tu connais des choses un peu plus que les autres. Alors, je l'ai un peu sondé, il a retourné le coin comme ça, il y avait une croix épinglée, mais dans le revers, ça ne se voyait pas. Clac, il m'a montré le revers, il y avait la croix. Moi, je n'étais pas sauvé. Je connaissais les choses parce que je fréquentais l'église, mais lui prétendait qu'il était sauvé. Et c'est là que je l'ai su, parce que vu tout ce qu'il disait, c'est les histoires sales qu'il racontait, on aurait pu se poser beaucoup de questions. Il pouvait cacher la croix, parce que la croix avait... C'est pas lui qui avait honte de la croix, c'est la croix qui avait honte de lui. je peux vous dire que c'était... c'est la façade. Ah là, il a osé. Parce qu'il y avait quand même, il voulait montrer sa science et qu'il en savait un peu plus que les autres. Mais tout juste, hein. Et il a montré qu'il cachait bien son jeu. Au fur et à mesure de mon expérience, j'ai rencontré tellement de gens qui se contentent d'une apparence. On voit, simplement. Mais ce qu'il y a, c'est que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes sauvés. Il y a quelque chose de changé en nous. Et ce changement à l'intérieur doit se manifester à l'extérieur. Et ce n'est pas dans certaines occasions que l'on manifeste ce changement, mais c'est dans chacune de nos secondes de vie. C'est le jour, c'est la nuit, c'est le travail, c'est les vacances, c'est le dimanche, c'est n'importe quelle circonstance. Nous sommes chrétiens. C'est comme cela. Par exemple, vous avez un médecin. Voilà, il est dans sa voiture. Il est en vacances. Il y a un accident sur la route. Vous savez que la loi l'oblige à soigner les blessés, même s'il est en vacances. Parce que sa profession de médecin le suit partout. Il est médecin. Donc, la loi française du moins, dit clairement qu'un médecin, dès qu'il y a un problème sur la voie publique, eh bien, il est immédiatement mobilisé comme médecin, devant exercer les premiers secours sur une personne qui est accidentée ou qui a un malaise ou tout ce que vous voulez. C'est son devoir, et s'il ne le fait pas, la loi va s'élever contre lui. Et il va devoir donner des explications. Alors, ce qui est vrai pour un médecin, pour les choses physiques, est beaucoup plus vrai encore pour les choses spirituelles. Parce que nous sommes dans un monde perdu. Et l'Église, dans chacun de ses membres, doit manifester le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la compassion de Dieu, la fidélité de Dieu, la patience de Dieu. Toutes ces choses-là doivent se manifester. Et un chrétien est mobilisé à chaque instant parce qu'il est dans une situation qui oblige sa mobilisation. Parce que un monde est en danger. Il y a des multitudes qui vont en enfer. Et nous ne pouvons pas dire, ah ben, je suis en vacances. Nous ne sommes pas en vacances. Jamais. Jamais. Ça n'existe pas, les vacances. Et si vous prenez du repos d'une manière ou d'une autre, vous restez quand même chrétien et vous avez quand même votre responsabilité d'être chrétien au milieu de ce monde perdu. Et je peux vous dire, il y a des milliers de chrétiens, mais quand ils sont en vacances, ils ne fréquentent plus de lieux de culte, ils ne vont plus dans des réunions, ils ne prient plus, ils ne font plus rien. Et quand ils reviennent des vacances, alors là, ils sont complètement dégonflés. Et même certains continuent ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient en vacances. C'est-à-dire qu'ils ne viennent plus dans l'église, ils ne vont plus aux réunions, ils ne participent plus à rien, ils ne lisent même plus leur Bible, plus rien du tout. Parce qu'ils ont pris la mauvaise habitude de ne plus le faire. Parce qu'ils étaient en vacances. Nous ne sommes pas en vacances. Donc l'église de Dieu, c'est un groupe de personnes et chacun responsable dans ce groupe pour être le chrétien qu'il doit être. Et c'est dans cette quand nous sommes le chrétien que nous devons être que nous manifestons le caractère de Dieu. Et c'est pour cela que on dit ah ben voilà oh, comme il s'aime. Parce que nous manifestons l'amour de Dieu. Dieu nous aime et nous manifestons l'amour de Dieu les uns vis-à-vis des autres. Mais nous manifestons aussi la justice de Dieu, parce que l'amour sans la justice, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. C'est le père ou la mère qui aimerait tellement ses enfants et qui ne les corrigerait jamais pour leur faute, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils les aiment. Ils ont une faiblesse pour leurs enfants, mais ils n'ont pas de l'amour, parce que le véritable amour est juste et il corrige, il reprend. Avec amour, avec douceur, avec patience, mais il reprend. Et quand c'est le temps de reprendre, eh bien, il faut reprendre. Et il ne faut pas que ce soit avec dureté, avec animosité, avec amertume, parce que ça, ce ne sont pas manifeste pas le caractère chrétien. Mais dans l'Église, il y a une discipline. Et on manifeste le caractère de Dieu, parce que Dieu est juste. Et dans l'Église, il y a la justice. Quand quelque chose ne va pas, eh bien, on le met en règle dans l'Église. Avec amour, mais avec justice. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est le caractère de Dieu. C'est ce verset de l'Épître aux Éphésiens, où il est dit que quand les anges regardent l'Église, eh bien, ils voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Les anges, en regardant l'Église, voit le caractère de Dieu. C'est ce que je vous ai dit, que l'Église manifeste Dieu. Et donc, dans son amour, dans sa justice, dans sa sainteté, dans sa fidélité. Et c'est dans sa grâce aussi, hein, c'est aussi ce que j'ai dit. Mais, et quand vous lisez les épîtres de Paul, où il a dû reprendre les personnes, vous verrez comment il les reprend avec amour, avec justice, et il fait grâce. Il y a des personnes, un particulier, qui avait commis quelque chose, il a dit, mais reprenez-le, remenez-le, qu'il ne soit pas affligé à l'excès, vous l'avez suffisamment corrigé. Il est en use de grâce, de miséricorde. La personne s'est repentie, c'est un frère, accueillez-le de nouveau, c'est votre frère. Il est mérité d'être corrigé, d'accord, mais n'allez pas jusqu'à l'excès. Il faut user de grâce aussi et de miséricorde. Donc, dans l'Église, eh bien, on manifeste le caractère même de Dieu. Et c'est donc cela se présente hein, de plusieurs manières. Vous avez nos réunions de prière. Quand on prie, eh bien, on manifeste le caractère de Dieu. On prie avec l'amour des âmes, mais c'est l'amour de Dieu pour les âmes perdues. Quand on prie pour l'Église, c'est ce que Dieu veut pour son Église, sa croissance, ses bénédictions, et puis le soutien et la force des uns et des autres. C'est exactement ce que Dieu veut pour son Église. C'est la prière manifeste cela. Dans l'Église, eh bien, les chrétiens vivent, manifestent aussi qu'il y a un changement de vie. Ce changement de vie, eh bien, manifeste la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Et c'est dans l'Église, ceux qui sont nés de nouveau portent le caractère de Dieu. Et il y a ce que nous étions dans le passé, et il y a ce que nous sommes maintenant. Ce changement se manifeste. Et ça, c'est quelque chose de très important. Quand les gens nous voient vivre, ils doivent voir quelque chose de différent. S'ils voient exactement les gens comme le monde, alors ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Je peux être dans tel club, tel truc, machin, chose. On parle des mêmes choses, on fait les mêmes choses, on a les mêmes motivations. Ça ne sert à rien que je sois dans une église. Je me suis trompé d'adresse. C'est vrai, hein, c'est... Donc, la vie chrétienne et la vie de chacun des membres de l'Église est une vie pure, une vie propre, une vie changée, une vie transformée. Et on manifeste ce changement et cette transformation. Et ça ne veut pas dire que nous ne tombons jamais. Nous marchons en vue d'un changement définitif. Mais il y a un progrès. Et au fur et à mesure, nous avançons. Et ceux qui nous ont connus il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, même davantage, disent « Mais cette personne-là, je me rappelle, mais ce n'est plus le même. Hein. Il a été changé ou elle a été changée. Ils sont différents. » C'est donc dans l'Église se manifeste un véritable changement. Nous ne sommes pas un club, nous ne sommes pas une réunion d'adeptes à un mouvement religieux, mais nous sommes de nouvelles créatures. Et il y a un changement. Et ce changement se manifeste. Et il se manifeste par la pureté, par la sainteté, par quelque chose qui correspond au caractère de Dieu. Les gens disent, mais quand j'ai rencontré ce chrétien, j'ai appris davantage sur Dieu. Et je me rappelle que c'était dit sur quelqu'un. Je ne dirai pas le nom. Je connais. Et on m'a dit, cette personne-là, j'ai connu la douceur et l'amour de Dieu au contact de cette personne. C'est le pardon de Dieu. C'est une grande chose, vous savez, que les gens, en nous voyant vivre, apprennent de Dieu quelque chose. Et les anges aussi. Hein. Donc, je vais vous donner deux autres points. Hein. C'est notre assiduité, notre régularité aux réunions. Quand nous sommes dans une église, eh bien, on se joint à cette église vraiment. Il y a des personnes qui voyagent, hein. Un jour dans une église. Ah, mais non, il y a un prédicateur qui vient là, ça m'intéresse. Non, c'est celle-là. Le dimanche prochain, il y a un autre prédicateur, ce sera un tel. Ah oui, alors j'irai à cette. Tout ça, c'est mauvais. Ne continuez pas comme cela si vous y êtes engagé. Il faut aller dans une église et se fixer dans son église. Et on travaille à la croissance de l'église. La croissance dans le nombre, mais la croissance spirituelle aussi. Et on s'engage dans une église. Et on travaille à ce que cette église grandisse. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Après, je vais vous dire, vous n'êtes pas dans l'église parfaite. Parce que l'église parfaite, elle est dans le ciel. Alors pour l'instant, ce n'est pas l'église parfaite. Donc vous allez trouver des problèmes. Vous allez trouver des personnes qui ne sont pas ceci ou pas cela. C'est vrai. Mais vous rappelez-vous que ce n'est pas l'église parfaite. Ce qu'il faut choisir toujours dans son église, c'est si elle a une bonne doctrine. Voilà. Après, vous trouverez des personnes qui ont des caractères difficiles ou qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas. Mais nous sommes tous en chemin. Alors, si vous voyez un immeuble avec un échafaudage devant, vous dites, mais il n'est pas beau cet immeuble. Ben oui, mais il est en chantier. Soyez patient. Et nous sommes tous en chantier. Donc, si vous trouvez des défauts chez les uns et chez les autres, nous sommes en progrès, nous avons besoin d'avancer, de changer. Voilà. Et puis, le dernier point, eh bien, c'est dans notre église, on soutient notre église. On la soutient financièrement. On la soutient de notre présence. On la soutient de nos prières, mais il y a aussi un soutien financier. Et alors il y a des personnes qui disent la dîme ne se trouve pas dans la Bible. Très bien, vous avez bien remarqué, mais ce n'est pas un prétexte pour donner de votre monnaie, ce qui vous embarrasse dans votre poche. Il y a des personnes je me rappelle, c'était un ami qui était pasteur d'une église, une église où il y avait beaucoup de chefs d'entreprise. La majorité des membres de cette église avaient une entreprise et roulaient dans de belles voitures, hein, de grosses, grosses voitures. Et c'est lui qui avait la collecte en main, et il se rendait compte que ce que lui donnait à la collecte était légèrement supérieur à l'ensemble de la collecte de l'église. Et lui était le pasteur. Et c'est-à-dire qu'il n'avait pas grand-chose. Donc, c'était vraiment une misère. Et un jour, quelqu'un passait avec la collecte et il y a un monsieur qui laissait échapper une pièce, c'était l'époque des francs, une pièce de 5 francs. Elle a roulé, 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 roulé. Et le monsieur est devenu rouge, plus rouge que les chaises. Il est allé chercher sa pièce de 5 francs qui est allée au bout de la salle, devant tout le monde. Et il savait qu'il agissait mal. Alors, c'est vrai que vous ne trouverez pas que dans l'Église, il y a la dîme. Mais néanmoins, quand il est dit dans l'Épître aux Corinthiens, une des Épîtres aux Corinthiens, de donner sans tristesse ni contrainte, ça veut dire que c'est une somme importante. Parce que si une pièce de 5 euros, hein, un billet de 5 euros ou 10 euros, vous pouvez le donner sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire que si c'est une somme d'une certaine importance, alors Satan peut vous dire, oui, ça va te manquer dans le mois. Donc je vous dis, ça se rapproche plus de la dîme, sans tristesse ni contrainte, que d'une aumône. Voilà. Donc c'est vrai que le terme ne s'y trouve pas, mais pour moi, je crois qu'il y a une bonne indication quand il est dit sans tristesse ni contrainte. C'est-à-dire que on doit faire confiance à Dieu et on donne une partie substantielle de nos revenus à l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est ce que je voulais dire sur l'Église. Et là, on termine le cours le cours de disciples sur celui-là. La semaine prochaine, je vais commencer sur la confession de foi. Voilà. Et chaque semaine,